panorama économique.
La Direction générale des douanes et accises a réalisé plus de 47 milliards de francs congolais au mois de février au titre de la TVA, un record jamais réalisé en un seul mois dans l'histoire de la douane congolaise. Et puis près de 28 millions de dollars américains attendus par le cadastre minier pour l'année 2012, le CAMI a lancé début février une campagne de mobilisation des recettes. Signature de contrat de performance lundi à Kinshasa entre le gouvernement, la SNEL et la Régie des eaux. Objectif final, permettre à ces deux entreprises de se stabiliser, d'assainir leur gestion et d'améliorer leur situation financière en vue de mieux desservir la population. Bienvenue à tous dans cette émission Panorama économique. Vous le savez, Panorama économique, c'est la rétrospective de l'actualité économique de la semaine, commentée par un invité. Nous recevons aujourd'hui M. Gabriel Mouépou, directeur général adjoint à la Direction générale des douanes et accises. M. Gabriel Mouépou, vous êtes avec nous dans ce studio. Bonjour.
Bonjour madame.
Et Jocelyne Moussa Oponde d'Ako Tambikila vous présente ce Panorama économique. Merci à vous tous de nous suivre.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine, la Direction générale des douanes et accises a réalisé plus de 47 milliards de francs congolais perçus au titre de la TVA au cours du mois de février.
Un record jamais réalisé en un seul mois dans l'histoire de la douane congolaise. L'annonce a été faite jeudi au cours d'une rencontre entre la DGDA, la DGI et les évêques de l'Église catholique. Plus de détails avec Willy Akonda.
Notez que ce montant a été prélevé du 1er au 25 février. Pour la DGDA, ce chiffre sera revu à la hausse si l'on tient compte des autres jours restants du mois de février. Et dans l'ensemble de ces recettes, la DGDA pourrait avoisiner ou même dépasser le montant de 100 milliards de francs congolais pour ce mois de février. Des recettes jamais réalisées en un seul mois dans l'histoire de la douane congolaise selon les responsables de cette régie financière. Rappelons que la DGDA a réalisé au mois de janvier 32 milliards de francs congolais de recettes au titre de la TVA. La tendance de ces recettes restent donc haussières.
Nous avons dans ce studio le directeur général adjoint de la douane congolaise, Monsieur Gabriel Mouépou. Ces chiffres seraient tenus à la date du 25 février. Et est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que finalement la DGDA a atteint les 100 milliards de francs congolais?
Merci madame. Effectivement, les chiffres ont évolué. Nous avons les chiffres provisoires au 29 février, qui indique que finalement la douane congolaise a collecté au mois de février 55 milliards contre 32 milliards au mois de janvier. Et en ce qui concerne les réalisations globales de la DGDA, effectivement nous avons dépassé le montant de 100 milliards parce que nous sommes actuellement à 112 milliards. Donc en termes de réalisation, c'est la première fois dans l'histoire de la douane congolaise qu'on arrive à un chiffre comme celui-là, donc de 112 milliards. Parce que pour la première fois où nous avons atteint le montant de 100 milliards, c'était l'année dernière, au mois de septembre. Comme vous le savez, le mois de septembre, c'est un mois qui, au fait, s'inscrit dans la préparation des festivités de fin d'année. Et donc, il y a beaucoup d'importations. Et à ce moment-là, c'était compréhensible qu'on puisse avoir un montant aussi élevé. Et cette fois-ci, on a 112 milliards au mois de février. Et cela est lié effectivement au fait que la réforme de la TVA est en train de produire ses effets. Mais aussi, la DGDA, grâce à l'appui du ministère des Finances, a amélioré sensiblement son taux de recouvrement des dossiers contentieux. Comme vous le savez, les opérateurs économiques qui commettent des infractions, des cas de fraude, sont parfois poursuivis par la douane. Et ici, dans le cas d'espèce, pour le mois de février, nous avons reçu un appui ferme du ministère des Finances qui nous a permis de recouvrer un montant d'environ 6 millions de dollars. Et donc, ce qui fait que dans l'ensemble, on se retrouve avec les chiffres records des 112 milliards de francs congolais au mois de février.
Voilà, vous annonciez ces réalisations de la DGDA jeudi lors d'une rencontre avec les évêques de l'Église catholique. C'est quand même une première, hein, ça n'arrive pas tous les jours. Pourquoi les évêques?
Oui, madame, comme vous le savez, depuis l'année 2010, le ministère des Finances avait lancé la campagne au civisme fiscal qui était patronnée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Cette campagne a vu dans sa mise en œuvre la signature d'un partenariat entre le ministère des Finances et la Conférence épiscopale nationale du Congo. Donc la conférence, donc la CENCO, est un partenaire du ministère des Finances dans la campagne au civisme fiscal. Mmh. Donc comme les évêques qui sont en réunion, en séminaire ici à Kinshasa, ils ont estimé qu'il fallait qu'ils puissent s'imprégner de la TVA de manière à ce qu'ils puissent utiliser les canaux dont ils disposent au niveau des diocèses pour faire passer le message relatif au paiement de la TVA.
Nous passons tout de suite à notre deuxième dossier de la semaine. Près de 28 millions de dollars américains attendus par le cadastre minier pour l'année 2012. Le CAMI a lancé début février une campagne de mobilisation de recettes.
Les propriétaires des concessions minières ont jusqu'au 31 mars pour s'acquitter d'une redevance appelée droit superficiel annuel par carré. C'est dans ce but que le département des taxations et des recouvrements au cadastre minier a initié depuis le mois de février une campagne de mobilisation des recettes à cet effet. Bienvenue Lisebi, chef du département des taxations et recouvrements au cadastre minier, qui nous a accordé une interview lundi, a souligné que les assujettis qui ne s'acquitteront pas de leurs devoirs à la date prévue se verront retirer leur permis d'exploitation. Nous l'écoutons au micro de Nadine Foulantimba.
Les gens concernés, ce sont les titulaires des droits miniers et des carrières. Ce sont des assujettis aux droits superficiels annuels par carré. Donc il y a des gens qui détiennent des concessions minières et chaque année, ils doivent payer une redevance appelée les droits superficiels annuels par carré. C'est au mois de janvier que nous préparons conjointement avec la DGRAD les notes de débit et de perception que nous remettons aux assujettis à cette redevance et qui doivent payer au plus tard le 31 mars de chaque année. Et cette fois-ci, nous avions voulu associer la presse parce que nous avions constaté quand même qu'il y a un certain délaissement auprès des assujettis. Alors nous avions voulu qu'on fasse une large écho pour que les assujettis sachent que les notes des débits et des perceptions sont disponibles dans les délais, qu'ils viennent les récupérer de façon à ce qu'ils paient aussi dans les délais.
À ce niveau, vous avez déjà une idée des entreprises qui sont concernées par cette taxe?
Oui, madame, si je peux dire les entreprises qui sont concernées, nous avons 602 titulaires des droits miniers et des carrières.
Et combien paye-t-on?
Bon, le paiement est fonction de nature. Le titre commence d'abord par les recherches, après les recherches, on passe par l'exploitation. Donc les taux en fonction de la nature des permis. Par exemple, si vous avez le permis de recherche, bon, là aussi le taux est évolutif en fonction des nombres d'années. Si vous êtes à la première année, des deux premières années, vous payez 3 dollars par carré. Donc là, c'est par carré. Et par an, vous payez 3 dollars. Si vous êtes à la troisième année, toujours en recherche, là, vous allez payer 31 dollars par carré. Et ainsi de suite, hein, donc en fonction du temps. Plus le temps évolue, le taux aussi augmente avec le temps. Mais si vous êtes en exploitation, le taux est constant, quel que soit le nombre d'années. Donc c'est 511 dollars par carré.
Et concrètement, comment se passe l'opération?
Nous travaillons conjointement avec la DGRAD. C'est-à-dire que nous émettons les notes de débit. C'est l'opération des taxation. Donc nous, on constate et on procède à la liquidation. La DGRAD émet les notes de perception que nous remettons aux requérants. Bon, ils ont jusqu'au 31 mars, au plus tard, pour venir payer.
Et dépasser ce délai?
Dépasser ce délai, madame, nous n'aurons pas le choix. Donc, je suis en train d'insister pour que les opérateurs notent que après le 31 mars, il n'aura pas d'excuse. Celui qui ne paye pas, alors, il se verra arracher ses concessions. Donc, on va les déchoir.
Combien comptez-vous percevoir à la fin de cette campagne?
Pour les trois, je dirais jusque là, nous pensons qu'on va mobiliser dans un premier temps 28 millions, ce que nous avons déjà émis, mais l'opération continue. Nous n'avons pas jusqu'à la fin de l'année comment ça va se passer, mais jusque là, nous sommes sûrs qu'il y a déjà 28 millions.
Voilà, je me retourne tout de suite vers mon invité, Monsieur Gabriel Mouépou, directeur général adjoint à la direction générale de douane et accises. Monsieur Mouépou, on voit là d'autres sources de financement hein, pour le gouvernement congolais.
Absolument, je pense que c'est évidemment une recette qui est encadrée, mobilisée par notre régisseur, la DGRAD.
Oui.
Mais ce que nous pouvons noter, c'est que je pense qu'on pouvait mobiliser plus. si les sanctions étaient effectivement appliquées contre les récalcitrants. Mm-hmm. Parce que vous avez entendu que si le titulaire de droits miniers ou de carrière ne s'acquitte pas de cette obligation, la loi prévoit notamment le retrait des titres. Mm-hmm. Bon, mais c'est des choses qui s'appliquent difficilement dans le contexte dans notre pays. Je pense qu'il va falloir qu'à un certain moment qu'on y arrive, qu'on arrive effectivement à retirer ce titre-là.
Mais la question que le commun des mortels se pose, c'est celle de l'affectation de ces recettes. C'est bien beau de sommer les contribuables, c'est bien beau d'aller de record en record à la DGDA, mais il faut que la population le sente aussi à travers les différentes réalisations.
Absolument. Je pense qu'en cette matière-là, comme vous le suivez d'ailleurs, ces dernières années, le gouvernement a fait un effort en termes de gouvernance économique. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, les organisations internationales telles que le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont pu accepter que notre pays puisse accéder à l'initiative du point d'achèvement, le pays très endetté, parce que, justement, on a, comme nous sommes en programme avec le Fonds monétaire, les dépenses qui sont effectuées par le gouvernement sont suivies. Et en ce qui concerne notamment ce que nous venons de mobiliser, parce que je peux vous rassurer ici que nous avons subi au fait un encadrement, un suivi de très près de son Excellence Monsieur le ministre des Finances qui est rentré à peine de l'Afrique du Sud.
Oui.
Et nous avons pu comprendre que parmi les urgences, c'est la régularisation de la paie des fonctionnaires. Donc il est question que cette fois-ci, que le gouvernement, au lieu de payer les fonctionnaires en deux temps, comme vous le savez, le gouvernement payait ceux de Kinshasa en un mois, donc au même mois, et ceux de l'intérieur le mois suivant. Il est question que tous les fonctionnaires soient payés dans le même mois. Donc vous voyez que le souci du gouvernement, c'est effectivement le social.
Le troisième dossier de la semaine, c'est cette signature de contrat de performance entre le gouvernement, la SNEL et la Régie des eaux, c'était lundi à Kinshasa.
Ces contrats déterminent les différents engagements et obligations de chaque partie en vue d'améliorer la gestion de ces entreprises. Quels sont exactement les termes de ces contrats de performance, Willy Akonda?
Stabiliser ces deux entreprises, assainir leur gestion et améliorer leur situation financière, c'est le grand défi que compte relever le gouvernement congolais. À l'issue du contrat de performance qui a été signé entre les deux parties, la Régie des eaux compte améliorer la qualité des services fournis à la population, aller vers un équilibre financier de l'entreprise et également démarrer un programme de mise à niveau des infrastructures dans les centres d'exploitation. De son côté, l'État congolais s'engage à apurer ses dettes vis-à-vis de la Régie des eaux, à payer mensuellement les consommations d'eau et à faire respecter par ses administrations les délais des règlements des factures d'eau. Les deux parties envisagent de tout mettre en œuvre pour clôturer les travaux en cours relatifs à la transformation de la Régie des eaux en société commerciale. En ce qui concerne la SNEL, elle prévoit entre autres de renforcer toutes ses activités en vue de satisfaire la population nationale, assurer en même temps la capacité d'exportation de l'électricité. Autre objectif à atteindre, c'est l'amélioration des activités commerciales de la SNEL en priorité dans la ville de Kinshasa et dans les principales villes du pays. Vis-à-vis de la SNEL, l'État congolais compte veiller à ce que cette entreprise soit en mesure d'appliquer strictement les tarifs en vigueur dans l'ensemble du pays. Une précision importante, plus aucune tarification préférentielle ne sera accordée à l'avenir à la clientèle de la Société nationale d'électricité. Notons que les décisions prises à ce sujet pourraient être révisées ou encore actualisées au cas où c'est nécessaire.
Voilà, Monsieur Gabriel Mepo, vous êtes notre invité. Un commentaire par rapport à cette information. Je me souviens que la dernière fois que je vous recevais dans cette émission, la SNEL et ses contrats faisaient encore l'actu.
Tout naturellement, je pense que ce qui est important ici à souligner, c'est que ces deux entreprises sont confrontées à un problème de la réhabilitation de leurs infrastructures. Et comme vous le savez, aujourd'hui, par exemple, la Banque mondiale prévoit un portefeuille de projets d'environ 1 milliard pour la SNEL. Mais ce montant-là, par rapport aux besoins de la SNEL, ça ne représente pas grand-chose.
Oui.
Donc la SNEL a besoin de beaucoup de financement. Et comme je l'avais dit aussi la dernière fois, c'est que dans ce type de financement qu'on peut mobiliser, notamment au niveau de banques de développement à l'extérieur. J'avais cité le cas de Exim Bank India. Ces institutions exigent chaque fois que, quand le gouvernement veut signe des accords avec ces institutions, que le gouvernement soit en mesure d'amener une contrepartie en termes financiers. Oui. Alors, vous avez vu par exemple le cas de barrage de Katende au Kasai. Donc là, il y a évidemment le gouvernement indien qui finance via l'Exim Bank, mais ils ont exigé que là, le gouvernement congolais aussi puisse financer. Et donc, la réhabilitation des infrastructures, que ce soit au niveau de la SNEL ou de la Régie des Eaux, exige justement que le gouvernement puisse mobiliser le maximum qu'il peut faire. Mmh. Et les réformes telles que celles liées à la TVA, c'est des réformes qui tombent à point nommé.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles. En bref, un séminaire de tous les directeurs des impôts venus de 11 provinces de la RDC a été organisé cette semaine à Kinshasa.
Durant 3 jours, soit du 1er au 3 mars, ces directeurs se sont penchés, entre autres, sur l'évaluation de la TVA, des mesures correctives et aussi des stratégies pour optimiser les impôts. À ce sujet, le DG de la DGI a donné le bilan des premières déclarations de la TVA perçues jusque-là par la DGI. C'est lundi de Nelokadi, cette TVA constitue certes une mine fiscale suffisamment riche qu'il appartient à la direction des impôts d'exploiter rationnellement pour en tirer profit.
Et puis à Lubumbashi, un opérateur économique accuse Bivac International, antenne de Lubumbashi et l'OCC d'avoir organisé un circuit parallèle de perception de frais de prestation de l'OCC à l'importation.
Selon Roger Mutashi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aucun paiement ne doit se faire en dehors du guichet unique, suivant la décision du gouvernement national. C'est ainsi qu'il a refusé de payer plus de 2 000 dollars américains à l'OCC. Ainsi, il accuse Bivac d'avoir bloqué sa marchandise. Du côté OCC, on parle de la confusion et de l'incompréhension que Mutashi est en train d'entretenir.
Ce sont les deux brèves retenues pour le panorama de cette semaine. Monsieur Gabriel Mouipou, un commentaire sur l'une ou l'autre information?
Je pense que je voudrais faire un commentaire sur le problème de l'organisation d'un circuit parallèle au niveau de Kasumbalé, en ce qui concerne les guichets uniques.
Oui.
Je voudrais tout simplement noter ici que, au fait, il y a effectivement des problèmes qui se posent dans le fonctionnement du guichet unique. Nous étions nous-mêmes personnellement à Kasumbalesa en 2010, en mars 2010. Nous avions accompagné Son Excellence Monsieur le Premier ministre à Kasumbalesa au niveau du guichet unique, et on avait constaté ce problème qu'il y avait des perceptions qui se faisaient justement en dehors du guichet unique. Et je crois que la solution, on est en train de la trouver avec l'OCC. Mmh. Au fait, ce qui est à la base de cette perception parallèle, c'est le fait qu'il y a des frais, des redevances que l'OCC doit percevoir, mais qui ne sont pas encore configurées dans le système informatique de la douane.
Oui.
Donc il y a une commission mixte OCC-douane qui a été créée pour pouvoir justement trouver une solution à ce problème. Et nous pensons que dans les semaines qui viennent, ce problème sera résolu.
Panorama économique, reportage.
À Mitouaba au Katanga, la forte exploitation minière ne rencontre pas l'amélioration des conditions de vie de la population locale. Déclaration de la société civile de Mitouaba. Pour elle, les minerais extraits sont achetés par les comptoirs d'achat implantés sur place. Et de tous, seul un comptoir pose certaines actions au profit des autochtones. Ainsi, l'espoir de la population de voir cette partie de la province du Katanga se développer grâce à l'exploitation minière s'éloigne de plus en plus. C'est un reportage que nous propose Paulin Munanga.
Dans le territoire de Mitwabal, on estime à près de 4000 creuseurs artisanaux qui exploitent la cassiterite dans une dizaine de carrières. Et la présence sur place des comptoirs d'achat de ces minéraux explique l'activité économique qui prévaut sur place. De tous ces comptoirs, un seul pose quelques actions sociales en faveur de la population. Il s'agit des Mining Minerals Resources MMR. Confirmation du président de la société civile de Mitwaba, Floribert Kabangenumbi.
L'apport de comptoirs, à mon sens, je dirais le comptoir qui pose des œuvres concrètes, c'est le MMR. Et les autres, jusqu'ici, moi, je n'ai jamais vu. MMR, ils ont construit l'école du cinquantenaire, ils ont fait l'hôpital, ils ont l'éclairage, ils ont fait le forage de puits, ils ont aménagé la route avec leur concours.
La production mensuelle de cassiterite est intéressante. Olivier Messongolo de l'Institut anglais chargé de l'étain à Mitwaba en donne ici une estimation.
La production est bonne, mais ça dépend maintenant des temps et des événements. Par exemple, quand il y a eu des élections, beaucoup de gens sont rentrés parce que l'État avait dit que chacun va voter là où il s'était enrôlé. Beaucoup de gens sont rentrés là où ils étaient enrôlés. Et en rentrant comme ça, il y a eu baisse d'effectifs dans les carrières. D'office, il y a baisse de production. Au mois de décembre, on a fait quelque chose comme 100 tonnes. Et au mois de janvier, ça a augmenté. On était dans le 200 parce que les gens sont revenus.
Selon l'abbé Jean-Claude Kassongolé, curé de la paroisse de la cité de Mitwaba, ces comptoirs miniers devraient poser de grandes actions sociales à la taille de leur production.
De penser à cette population qu'ils ont trouvée, pour que, même après leur départ, que cette population puisse se souvenir de leur passé dans ce territoire ici. Pas quelque chose qui peut être fait pour deux jours, trois jours ou une année, mais quelque chose qui pourra durer.
Disons que toute la production de la cassiterite est acheminée à Lubumbashi, comme cela a été le vœu du gouvernement provincial du Katanga. Mitwaba, rappelons-le, est coupé du reste du monde car il n'y a aucun réseau de communication jusqu'à présent.
Merci Paula Munanga, Monsieur Gabriel Mouipou. Comment tirer profit des richesses du pays? D'ailleurs, si on ne faut prendre que le secteur minier, on a l'impression que plus l'activité minière est intense, plus les populations locales s'appauvrissent.
Oui, je pense qu'il y a là justement ce qu'on appelle le paradoxe de l'exploitation des ressources naturelles.
Oui.
Et donc il y a des pays qui sont dotés de ressources naturelles mais qui n'en profitent pas, c'est le cas justement de notre pays. Et c'est là, je pense que cela est dû essentiellement au fait que les textes qui réglementent l'activité, l'exploitation minière, ces textes ne permettent pas justement à l'État congolais de pouvoir tirer profit de l'exploitation et de l'activité minière. Et je pense que dans son discours d'investiture, son Excellence Monsieur le Président de la République a appelé justement à la révision du code minier. Bon, le code minier, comme vous le savez, a été promulgué depuis 2002, donc depuis juillet 2002. Et il y avait des clauses de stabilité fiscale qui devaient prévaloir pendant au moins 10 ans. Cette clause va expirer au mois de juillet de cette année. Et donc, nous pensons que le moment est venu, justement, pour pouvoir reviser ce code, de manière à ce que l'État puisse, notamment, se retrouver en termes de fiscalité. Je voudrais, par exemple, ici donner le cas de la douane. Aujourd'hui, le code minier a exonéré les exploitants miniers, notamment, du paiement de droits sur les importations de carburant. Et on a vu, par exemple, dans le cas qui concerne le Katanga, justement, qu'il y a des personnes qui importait du carburant en disant que c'est pour l'exploitation minière et qu'il est déversé sur le marché. Bon, évidemment, il y a eu des mesures correctives qui ont été prises par le gouvernement, justement pour exiger que les exploitants miniers puissent commencer quand même à payer les droits sur les importations de carburant. S'il y a des contrôles a posteriori qui démontrent qu'effectivement c'est eux qui ont consommé à ce moment-là, on leur rembourse ce qu'ils ont payé en amont. Bon, mais aussi les textes devaient exiger, comme on vient de le suivre, aux exploitants, déposer certains actes dans les localités où ils évoluent.
Oui.
Et je pense que avec la révision du code minier qui est préconisée au niveau du gouvernement, nous devons arriver à prévoir des clauses dans le code minier qui vont obliger justement les exploitants à poser des actions qui vont dans le sens de bénéfices de populations locales.
Panorama économique, matière première.
La RDC vient de se doter du certificat de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il s'agit d'un document qui facilitera la traçabilité des minerais exportés de la RDC. La maquette de ces certificats a été adoptée mardi à Kinshasa par le ministre de Mines, en présence des experts et organismes évoluant dans les secteurs miniers, ainsi que des délégués de certaines représentations diplomatiques accréditées en RDC. Dakota Mbikila.
Ce certificat contiendra les mentions permettant au gouvernement congolais d'assurer la traçabilité de chaque lot de minerais exportés. L'on y trouvera notamment les numéros de chargement, les lieux d'origine du minerai, le nom et l'adresse de l'exploitant, mais aussi les coordonnées permettant de localiser les sites miniers d'où provient les minerais exportés. Pour le ministre des Mines, Martin Kabololo, c'est le début des solutions au commerce illicite des minerais en RDC. Il faut préciser qu'avec l'entrée en vigueur de ces certificats, tous les minerais exportés à partir de l'est du pays et qui ne seront pas accompagnés de ces certificats seront saisis. L'adoption de ces certificats a été précédée de la validation du projet de l'arrêté ministériel portant mise en œuvre du mécanisme régional de certification de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Pour Baudouin Amouli, coordonnateur du CIR, il s'agit d'un pas des géants que vient de faire la RDC dans la lutte contre l'exploitation illicite des minerais en RDC. Précisons que l'adoption de ces certificats par la RDC fait suite à une requête des chefs d'État de la région des Grands Lacs, celle d'instituer un certificat régional garantissant la traçabilité des minerais dans cette sous-région, une façon de se conformer aux valeurs d'une norme internationale. Notons que ce certificat sera opérationnel d'ici 3 mois.
Voilà, Monsieur Gabriel Mopou, vous pensez que ce document va aider à mettre fin au commerce illicite de minerais de la RDC, commerce qui a financé les groupes armés?
Tout naturellement, comme vous le savez, il y a eu une expérience similaire qui avait déjà été tentée dans notre pays. C'est l'expérience du processus de Kimberley en ce qui concerne les diamants.
Oui.
A permis de réduire le niveau de fraude en ce qui concerne le diamant. Nous pensons que ce certificat va aussi aider en ce qui concerne les autres minerais, notamment la cassitérite et autres qui sortent, le coltan qui sortent à l'est.
Voilà, nous allons conclure cette émission. Vous voulez peut-être conclure avec un mot sur la douane congolaise?
Tout naturellement, je voulais ici dire que nous avions eu des prophètes des malheurs. En ce qui concerne notamment la TVA, il y a des gens qui pensaient que la TVA était là pour créer notamment un emballement des prix.
Oui.
Je pense que les statistiques de l'INS, notamment, en ce qui concerne l'indice général de prix, indiquent que les prix se sont vraiment stabilisés. Ils sont maintenant revenus au niveau antérieur. Mais aussi, comme on venait de le voir, les niveaux des recettes étaient en train d'augmenter.
Oui.
Pour la première fois.
Oui.
La douane congolaise, depuis qu'elle existe, elle vient de réaliser un chiffre de 112 milliards.
Oui, mais c'est le portefeuille du Congolais qui sort peut-être plus d'argent, mais on y reviendra peut-être un autre jour, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Monsieur Gabriel Mouepou, merci d'être venu dans ce studio pour commenter, analyser avec nous l'actualité économique de la semaine. Dako Tambikila, merci d'avoir co-présenté avec moi cette émission Panorama économique. À vous tous qui nous avez suivis, merci de votre attention. Le rendez-vous avec l'économie, c'est déjà lundi à partir de 18h15, heure de Kinshasa. Panorama économique, c'est samedi à 12h30. Bon week-end en compagnie de programmes de Radio Capi. Thank you.